Merci de vous être déplacé. Donc, nous avons fait Lutte ouvrière notre congrès annuel hein, ce week-end. Et nous avons bien sûr beaucoup discuté de la situation sociale et politique. Nous l'avons fait autour de six textes. Un texte sur le chaos capitaliste et la nécessité du renversement révolutionnaire de la bourgeoisie. Un texte sur le Moyen-Orient. Un texte sur la Russie, l'Ukraine et l'Europe de l'Est, un texte aussi sur les États-Unis, un autre sur l'Afrique dans les rivalités impérialistes, et bien sûr un texte sur la situation intérieure. Donc tous ces textes seront publiés dans notre prochaine revue mensuelle, hein, la lutte de classe, donc ils seront bien sûr accessibles. Et puis nous avons voté à l'unanimité une motion sur notre participation aux élections européennes. Donc, j'annonce hein, aujourd'hui officiellement qu'il y aura une liste Lutte ouvrière conduite par Jean-Pierre Mercier, qui est ici présent, et par moi-même. Donc voilà, nous serons tous deux à conduire cette liste Lutte ouvrière. Je précise aussi que comme chaque année, nous avons invité nos camarades qui militent à l'étranger sur les mêmes bases et dans les mêmes perspectives que nous. Donc, nous avions des camarades venus d'Haïti, de Côte d'Ivoire, d'Allemagne, d'Espagne, de Grande-Bretagne, des États-Unis aussi, de Turquie. J'en oublie peut-être, mais et nous avions nos camarades qui militent aux Antilles dans l'organisation Combat ouvrier, hein, qui était aussi présent. Voilà. Alors pour résumer les principales conclusions de nos discussions et même pour faire dans la concision, je résumerai en tout cas la situation internationale en disant que le monde s'enfonce dans une évolution catastrophique. Voilà, c'est une évolution catastrophique sur le plan des inégalités, sur le plan social, hein, avec y compris des régions entières du monde qui plongent dans la famine. Hein, on s'enfonce également dans la crise climatique, avec des épisodes qu'on connaît ici, hein, mais qu'on arrive encore à gérer relativement facilement, hein, avec les moyens d'un pays riche, hein, comme le nôtre, mais cette crise climatique, elle provoque des drames, hein, des drames dans plein de régions du monde. Là, dernièrement, les inondations immenses qui ont eu lieu dans la Corne de l'Afrique ont donc forcé 1 million de personnes à se déplacer. Hein, au Kenya, en Somalie, en Éthiopie, et ça s'ajoute aux dizaines de millions de réfugiés qu'on dit maintenant les réfugiés climatiques. Donc évidemment, c'est une crise d'ampleur. Et puis on s'enfonce une autre évolution catastrophique qui est frappante, c'est évidemment l'évolution guerrière du monde. Hein, les guerres n'ont jamais cessé. Hein, depuis la Seconde Guerre mondiale, la guerre n'a jamais cessé au Congo, au Soudan, hein, en Afrique. On connaît depuis février 2022 donc, la guerre sur le continent européen avec la guerre en Ukraine, qui a sans doute fait plus de 500 000 victimes, hein, morts et blessés, dans les deux camps. Et puis, bien sûr, donc, il y a depuis le 7 octobre la guerre qui a repris au Moyen-Orient. Il y a donc cette riposte terrifiante hein, de l'État d'Israël, puisque au moment où nous nous parlons, sans doute qu'il y a encore des dizaines hein, de femmes et d'hommes, d'enfants qui meurent sous les bombes et qui meurent aussi peut-être pour cause d'épuisement, de manque de soins, de nourriture, de médicaments. Hein, et la question qu'on peut se poser, c'est jusqu'où? Hein, l'État israélien ira-t-il dans ce massacre de masse à Gaza? Voilà. Et jusqu'où ira-t-il hein, dans sa politique de colonisation, de répression, d'humiliation quotidienne en Cisjordanie et en Israël même? Et j'insiste, et tout ça, se fait avec la complicité des grandes puissances impérialistes, et c'est une chose sur laquelle je voudrais insister, parce que bien sûr que les États-Unis auraient les moyens de retenir le bras armé d'Israël, mais il le fait depuis ses 75 ans de domination, eh bien il est prêt à couvrir tous les crimes de l'État d'Israël. C'est ça la réalité. Et j'insiste d'autant plus que nous pensons que le piège sanglant dans lequel sont pris les Palestiniens et les Israéliens est le fruit des manœuvres impérialistes dans la région depuis que elles ont cherché à se partager les dépouilles de l'Empire ottoman. Il faut remonter bien sûr aux manœuvres de l'impérialisme britannique et français pendant la Première Guerre mondiale. Et manœuvres qui ont ensuite été poursuivies par les États-Unis, qui ont effectivement trouvé la possibilité d'avoir un allié qui lui soit redevable et ô combien fidèle dans une région qui est bien sûr stratégique, puisque je rappelle que 40% du pétrole consommé dans le monde vient encore du Moyen-Orient, et c'est bien sûr un axe commercial majeur. Donc cette politique des grandes puissances impérialistes en faveur d'Israël n'a absolument rien à voir avec l'amour des Juifs et la volonté de protéger les Juifs, Juifs qu'ils n'ont d'ailleurs pas protégés au moment décisif, au moment en tout cas où ils en avaient le plus besoin, c'est-à-dire à la fois dans les années, lors de la montée du nazisme en Allemagne et jusqu'en 39-40, où il était encore possible, sans doute, de sauver des millions de femmes et d'hommes. Voilà, donc c'est pas par amour du peuple juif, mais c'est par l'amour du fric, comme toujours, quand il s'agit des grandes puissances impérialistes et de la grande bourgeoisie qui s'enrichit. Et encore, donc aujourd'hui, oui, nous disons que les Palestiniens sont sacrifiés sur l'autel de l'impérialisme. Alors, de façon plus générale, parce que je ne veux pas faire trop long, toute cette évolution catastrophique, et encore une fois, je mêle, et je pense que ça se conjugue, la crise sociale, la crise économique, la crise climatique, ces guerres, toute cette évolution, elle est de la responsabilité de ceux qui dirigent le monde. Bien sûr, ce sont ceux qui dirigent le monde, qui le dominent, qui sont responsables de cela. Et cela s'explique par un système capitaliste qui est basé sur la recherche des profits, sur le pillage, sur l'accumulation, sur la concurrence et la guerre économique permanente. La guerre économique permanente où, effectivement, le petit jeu a toujours été de dresser les peuples les uns contre les autres. Pour nous, cette évolution, elle nous conforte dans notre conviction fondamentale qu'il faut renverser cet ordre impérialiste, qu'il faut renverser la bourgeoisie, et que la perspective, c'est effectivement que les travailleurs, le monde du travail, prennent les rênes de cette société, la dirigent pour la transformer en une société débarrassée de l'exploitation, de la propriété privée, de la concurrence et de toutes ces de toutes les abominations qui en découlent, de toutes sortes. Voilà donc à l'échelle internationale ce qu'on peut dire. Et Jean-Pierre, tu peux peut-être préciser sur la France.
Rapidement, alors effectivement en France, on n'est pas encore plongé dans la barbarie des bombes et de la guerre, mais le monde du travail subit une autre guerre qui s'intensifie, c'est la guerre sociale, la guerre de classe, que mènent de concert le grand patronat et le gouvernement, dont les dernières mesures, par exemple, si on ne cite que celles-ci, c'est des mesures contre les chômeurs, réduction du montant des indemnités, mais aussi réduction du temps d'indemnisation pour ce qu'on appelle les seniors, les plus de 55 ans. Cette intensification de l'exploitation se traduit par la continuité des plans de suppression d'emplois, de licenciements, de fermetures d'usines. aussi l'utilisation massive de travailleurs précaires, d'intérimaires, de CDD, de contrats pro, et des salaires qui chaque mois, malgré la propagande du gouvernement, qui chaque mois perdent du terrain face à l'inflation qui continue d'augmenter, et on le voit quand on vit la vraie vie, quoi. Et ça a comme conséquence une explosion de la pauvreté, où depuis déjà un certain temps, ceux qui ont un emploi salarié, eh bien, n'arrivent plus à se nourrir, n'arrivent plus à se loger, n'arrivent plus à se chauffer, eux et leur famille. Alors, nous n'avons pas les bombes, nous n'avons pas la guerre, mais le monde du travail paye déjà l'effort de guerre, la course au réarmement, où le budget militaire récemment a été voté à hauteur de 400 milliards d'euros, et c'est autant d'argent qui va manquer pour les budgets dits sociaux, les budgets des services publics, la santé, l'éducation nationale, le logement. Et le monde du travail s'enfonce dans la pauvreté, alors qu'à l'autre bout de la société, à l'autre bout du pôle de la société, la fortune, les fortunes de la grande bourgeoisie explosent. Je vais citer un exemple que vos confrères du magazine Challenge ont rapporté. C'est il y a 20 ans, il fallait avoir une fortune de 5 millions d'euros pour entrer dans ce fameux club des 500 familles les plus riches de France. 20 ans plus tard, aujourd'hui, il faut 235 millions pour espérer rentrer dans ce club fermé des 500 familles, 500 bourgeois les plus riches de France. Alors, oui, les travailleurs ne s'en sortent pas du chômage, ils ne s'en sortent pas face à l'inflation, alors que les quartiers populaires sont laissés à l'abandon, ils sont minés par la violence, le chômage, les trafics de drogue, et avec tous les drames que l'on connaît. Alors, c'est dans ce contexte général que toute la vie politique est poussée vers la droite et vers l'extrême droite. Et l'exploitation du drame de Crépol est particulièrement révoltante, comme tout l'activisme des groupuscules d'extrême droite qui instrumentalisent les événements nationaux ou internationaux afin de distiller leur venin raciste, anti-musulman, anti-immigré. Et le gouvernement n'est pas en reste dans cette surenchère, dans cette course à l'échalote. Avec dernièrement sa loi sur l'immigration qui est ignoble et révoltante. Alors nous ne cesserons pas, nous, à Lutte ouvrière, de combattre au nom des intérêts politiques des travailleurs toutes ces idées réactionnaires qui sont véritablement un poison pour l'ensemble du monde du travail. Alors oui, il faut que la classe ouvrière, le monde du travail, se batte pour ses conditions de vie, se batte pour avoir des salaires dignes de ce nom. Imposer l'embauche des jeunes dans les entreprises, les sortir du chômage, mais avec une toute autre détermination que nous avons pu avoir lors du mouvement de la mobilisation sur les retraites. Mais ça ne suffira pas. Ces mobilisations sociales pour le pouvoir d'achat, contre le chômage, ça ne suffira pas. Il faudra que les travailleurs, et nous en sommes convaincus au plus profond de nous-mêmes, il faudra que les travailleurs aillent plus loin et n'hésitent pas à remettre en cause le pouvoir des capitalistes dans les entreprises et sur l'ensemble de la société. Remettre en cause le système capitaliste parce que c'est la cause de tous les maux de la société. Nous sommes communistes, nous sommes communistes révolutionnaires, là-dessus nous n'avons pas changé et on ne changera pas. Et nous sommes convaincus que le renversement du capitalisme, eh bien, c'est la seule issue à la fois pour sauver notre peau de travailleurs, mais aussi pour offrir un tout autre avenir à l'ensemble de la société.
Donc, pour conclure sur cette prise de parole, c'est cette perspective-là que nous allons défendre dans les élections européennes, hein, c'est-à-dire que la nécessité d'affirmer une politique communiste, révolutionnaire, internationaliste.
Peut-être une question sur l'Europe et votre vision de l'Europe, des institutions européennes. C'est comme des élections européennes. Quel est votre regard sur l'Europe telle qu'elle fonctionne aujourd'hui? J'imagine que c'est critique.
L'Europe, comme la France et comme absolument tous les pays dans le monde, est gouvernée par les politiciens de la bourgeoisie. Cela, ça n'est une surprise pour personne hein, de voir comment les décisions européennes, comme les décisions de la France, comme les décisions des États-Unis, correspondent aux intérêts des financiers et de la grande bourgeoisie. Évidemment, nous pensons qu'il faut renverser la grande bourgeoisie et instaurer des institutions qui seraient dirigées par les travailleurs eux-mêmes, mais sûrement pas rajouter des frontières. Sûrement pas rajouter des frontières. Nous pensons au contraire que toutes ces frontières-là qui sont en train de se multiplier à l'échelle de la planète sont une partie du problème. Et y compris tous ceux qui cherchent à créer, comment dire, aller dans ce sens hein, de nationalisme exacerbé où il faut que chaque peuple ait son micro-État quelque part, en réalité, il reste complètement sous la dépendance et sous la tutelle de l'impérialisme. Donc voilà, autant nous sommes pour un monde sans frontières dirigé par les travailleurs. Donc c'est ce message-là que nous. Un monde sans frontières dirigé par les travailleurs, et c'est le seul monde, c'est la seule perspective qui permettra en effet au peuple de vivre en bonne entente. Parce que c'est le seul moyen de supprimer le pillage du monde, de supprimer l'exploitation. L'exploitation au sein de chaque pays, mais l'exploitation aussi des pays riches par les pays pauvres.
Vous n'avez pas forcément l'espoir d'avoir un seul élu au niveau européen. Enfin,
Nous, on mène campagne, on va se présenter justement pour défendre ces perspectives, cette politique pour l'ensemble du monde du travail. Après, si nos scores nous permettent d'avoir un ou plusieurs élus, tant mieux. Mais oui, on n'est pas électoraliste. On tient absolument à se présenter justement dans ce contexte de marche à la guerre, de course au réarmement dans tous les pays riches, à faire entendre cette voix internationaliste, cette voix communiste révolutionnaire, parce que c'est indispensable de défendre ces idées qui, c'est pour nous les seules idées qui permettront aux travailleurs de se débarrasser des guerres, de se débarrasser de la misère, du chômage et de l'exploitation. Donc oui, comme à chaque élection, on tient absolument à se présenter. Ces élections ont une tonalité un peu particulière vu le contexte international. Et oui, on est vraiment, on tient vraiment à se présenter pour faire entendre cette voix internationaliste.
Et je crois que cette voix, elle est naturelle quand on parle au nom du camp des travailleurs, justement. Hein, c'est-à-dire, camp des travailleurs qui, oui, mélange travailleurs de toutes les origines, de toutes les religions, de toutes les nationalités. Et ça ne sera pas une voix de trop pour faire entendre eh bien, une opposition radicale à toutes ces idées racistes, voilà, xénophobes, qui aujourd'hui empoisonnent et sont diffusées, je dirais, 24 heures sur 24, qui deviennent presque la norme. Donc, ça ne sera pas une voie de trop que d'affirmer, au contraire, la nature internationaliste et le fait que, oui, quand on appartient aux classes populaires, bien sûr qu'on vit mélangé. Bien sûr qu'on vit mélangé et qu'on vit avec des intérêts communs et qu'on mène des combats communs et qu'on a 1 000 fois plus finalement de points communs entre nous que de points communs avec notre bonne vieille bourgeoisie de souche, j'ai envie de dire.
Est-ce que vous pourriez discuter avec d'autres organisations? Je sais que, par exemple, en 2019, le nouveau parti anticapitaliste avait soutenu la liste que vous présentiez. Cette fois-ci, c'est une liste purement lutte ouvrière ou vous pourriez discuter avec d'autres organisations qui sont proches de vous?
2010, j'ai même oublié.
Ah ouais?
On discute dans tas de choses, voilà, on discute en permanence, mais bon, vous savez comme moi que le NPA a explosé en trois bouts, hein, avec révolution permanente d'un côté, et puis debout, qui se disputent actuellement l'étiquette NPA. Bon, donc ils se sont séparés parce qu'ils considéraient chacun qu'ils avaient une politique singulière, propre à développer et à défendre. Nous sommes absolument pour qu'ils la défendent jusqu'au bout. Nous défendons la nôtre. Hein. Ils estiment, les uns comme les autres, qu'ils ont suffisamment de désaccords avec nous hein, pour ne pas nous rejoindre ou nous soutenir. Hein. Donc, qu'ils l'expriment. Nous, on défend notre politique. On défendra cette politique qu'on vous a présentée. Voilà, par ailleurs, je ne sais pas, vous savez qu'il y a donc le bout, il me semble que le NPA, Poutou et Besancenot cherchent à faire alliance avec la France Insoumise.
Il y a le NPA C, on dit la plateforme C, qui est plus proche de vous, et là, de leur côté, la porte semble plus ouverte.
Et qui est divisée, on discute hein, avec les uns et les autres, et on a compris qu'ils étaient divisés, il y avait un bout qui était pour soutenir notre liste, Lutte ouvrière, et un autre bout qui est pour se présenter. Voilà. Donc, la discussion chez eux n'est pas finie. Si ils aboutissent à la conclusion qu'il faut soutenir notre liste, très bien.
Ben écoutez, merci beaucoup d'être venu.